Pour s'informer, de plus en plus d'internautes choisissent RadioCabi.net. Chaque mois, vous êtes plus d'un million à nous suivre sur www.radiocabi.net et votre avis nous intéresse. Chaque jour, une question d'actualité est à la une du site, plusieurs propositions. Exprimez votre opinion. Écoutez les résultats de cette consultation sur l'antenne chaque jour à 8h45 et après les infos de 16h30 sur radiocabi.net.
Nous parlons à présent des autistes chez les enfants. Quelles sont les causes et remèdes? Docteur Luc Kamanga est médecin pédiatre à la clinique d'Alima. Docteur, encore une fois, bonjour.
Bonjour, monsieur Kassama.
Alors, qu'est-ce qu'on entend par otite?
Ben, otite, c'est une infection, si vous voulez, l'inflammation des parties de l'oreille. Mmh. C'est vrai que l'oreille est composée de plusieurs parties. Et lorsque l'une de ces parties est affectée par une inflammation, généralement du germe microbien, on dit qu'il y a otite, salotite. C'est une pathologie fréquente chez les enfants surtout.
Mmh. Les enfants de quel âge?
Bon, les enfants de tout âge, mais plus jeune on est, plus on a la possibilité de faire des otites. Hein, c'est-à-dire à partir de 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, mmh. Il y a beaucoup d'otites, la fréquence est plus élevée. Et lorsque dépasse les 5 mois, elle est toujours là, mais la fréquence commence à un petit peu à dégraisser. Et jusqu'à l'âge de 3 ans, et au-delà de 3 ans, nous avons toujours des otites, mais beaucoup moins fréquentes. Ce qui fait que, bon, à chaque étape, à chaque âge, à chaque tranche d'âge, il y a des germes qui sont les plus fréquents aussi à cet âge-là. Et puis voilà.
Mmh. Donc, à
tout âge, on peut l'attraper, mais plus jeune on est, plus de possibilités il y a d'attraper le otite.
Mmh. Et quelles sont les causes de ces otites, je veux dire?
Bon, alors, il y a ce que nous appelons des causes infectieuses. Ce sont de loin les plus fréquentes. Ce sont des microbes, des bactéries qui sont à la base de cette inflammation-là. C'est notamment l'hémophilus. Il y a le streptocoque, il y a le pneumocoque, et parfois il y a les germes atypiques, tels que les chlamydia qui peuvent affecter les structures de l'oreille et provoquer une otite. Il y a parfois des otites rares, hein, des otites mycoriques, donc ce sont des champignons à ce moment-là, qui peuvent être à la base, mais ça c'est beaucoup plus rare. Mmh. Et généralement dans un contexte diminué de pression.
Voilà. Et comment se manifeste cette inflammation, docteur?
Bon, alors, les otites, c'est une maladie très gênante. La manifestation première, ce sont des douleurs. L'enfant va ressentir des douleurs, des douleurs tellement fortes que parfois, ça les amène à pleurer pendant longtemps. Et ils peuvent développer une fièvre et une altération de l'état général. Une altération d'état général. Et donc, principalement, les douleurs, un peu de fièvre et des agitations parfois.
Vous avez dit que les enfants de 2 mois peuvent déjà développer des otites. Et pourtant, les mamans prennent toujours, soignent bien leurs enfants. Ils ont toujours des tiges coton pour nettoyer les oreilles à tout moment. Et comment ces otites arrivent?
Bon, justement, c'est des choses qu'il faut déconseiller. Nous avons dit que la cause première, ce sont les infections, mais il y a d'autres causes qui peuvent être à la base. C'est notamment les traumatismes. Les traumatismes des conduits peuvent entraîner aussi des otites. Et c'est pour cela que l'usage des tiges coton ne devrait pas être conseillé, surtout chez les tout petits, parce que tout de suite, non seulement on peut léser les structures de l'oreille externe, mais on peut aller jusqu'à perforer les tympans, ce qui est plus grave. Ça va entraîner beaucoup de complications, notamment une surdité. Mmh. Et donc, c'est le site à éviter. Alors, vous comprenez? Donc, les mamans doivent plutôt faire attention. Le lavage des oreilles des enfants devrait mieux se faire avec du coton lié sous forme d'une mèche qu'on va tout doucement introduire dans le conduit auditif en faisant un mouvement rotatoire ça permet de nettoyer plus gentiment le conduit des tiges plutôt que les tiges coton.
Donc les tiges coton ne sont pas adaptées, ne sont pas...
Ce n'est pas conseillé, surtout chez les tout petits. Les grandes personnes peuvent utiliser les tiges coton parce que eux, au moins, ils peuvent sentir jusqu'à quel niveau, à quelle limite ils devront arrêter d'enfoncer les tiges coton. Chez les enfants, ce n'est pas évident. Déjà, le conduit est assez court. Et quand les mamans ils vont, ne mesurent pas nécessairement la longueur de ce conduit du disque, donc ça peut provoquer des accidents et des choses qu'il ne faudrait pas conseiller de façon systématique.
Alors comment une maman, par exemple, peut détecter la présence d'une otite? Parce que vous avez dit l'enfant a des douleurs, le cire, l'altération de l'état général, l'enfant pleure, mais s'il y a des signes qui peuvent renseigner la maman directement qu'il s'agit d'un problème d'otite?
Oui, lorsque nous recevons ces enfants en consultation, la première plainte que les mamans amènent, c'est les pleurs. L'enfant pleure de façon incessante, parce que ça fait mal, les otites. Ils pleurent. Alors, ils n'ont pas, parce que quand ils sont très jeunes, ils ne peuvent pas vous dire que j'ai mal à l'oreille, ainsi de suite. Mais lorsqu'ils arrivent chez nous, sur base de cette plainte des pleurs et parfois des fièvres, parfois il n'y a même pas de fièvre, nous orientons vers un examen oral, disons. Et dans cet examen oral, nous allons examiner les structures de l'oreille. Sur le plan externe, nous pouvons utiliser également des appareils, notamment l'otoscope, qui va nous permettre de voir à l'intérieur s'il s'agit réellement d'une inflammation. Et c'est comme ça que nous diagnostiquons l'otite. Donc, la plainte principale, c'est les pleurs. Un enfant qui pleure, qui est agité, qui ne vous fait pas dormir, pensez à une otite. C'est très fréquent.
Généralement, les mamans pensent peut-être à la malaria, qui est une maladie courante, c'est sûr.
Ah oui, vous savez, il y a beaucoup de signes qui se retrouvent dans plusieurs maladies. La malaria, évidemment, on peut faire agiter un enfant, il peut pleurer parce qu'il a des maux de tête, mais le pleur incessant, caractéristique des otites, nous pouvons les détecter. Surtout quand les mamans les décrivent, elles n'ont pas passé la nuit, elles n'ont pas dormi du tout, et l'enfant pleure à tue-tête. Entre autres causes, ce sont des otites. Donc, nous examinons en profondeur. D'ailleurs, tout enfant qui vient en consultation pédiatrique devrait bénéficier d'une consultation orale. Donc, on doit bien faire l'examen de orale, examiner correctement la gorge, examiner les oreilles, faire l'otoscopie, pour exclure cette possibilité d'otite, parce que c'est très fréquent chez les enfants, cette maladie.
Mais est-ce que, docteur, le rhume peut, à la longue, entraîner l'otite?
Bon, vous savez, c'est la sphère orale, otorhino-laryngologie. Le rhume étant dans la même sphère, en fait, c'est des choses qui se lient. Évidemment, quand un enfant se présente avec un rhume, il y a très probablement une atteinte de l'arrière-gorge aussi. C'est-à-dire son pharynx, son larynx, parfois son amygdale, sont affectés. Et lorsque ces circuits sont affectés, ils sont toujours dans la sphère orale, par voie de contiguïté, parce que vous savez, il y a une communication entre l'arrière gauche et l'oreille, l'oreille moyenne, à travers la trompe des fâches. La communication peut se faire directement par là, et l'enfant peut attraper une otite à partir d'une infection qui a commencé au niveau de la gorge. Donc c'est pour ça qu'il est très, très important de pouvoir examiner cette gorge-là.
Et si un enfant développe des otites à répétition, qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là?
Ben, les otites à répétition, c'est généralement secondaire à une mauvaise utilisation ou de mauvais soins administrés à l'enfant par rapport au premier épisode d'otite qu'il a eu. Soit que les antibiotiques n'ont pas été bien utilisés, ou ça n'a pas été adapté, ou ça a été donné pendant juste quelques jours et puis on a arrêté. Alors à ce moment-là, ça va récidiver. Bon, il faut aussi penser à un contexte d'immunodétection, c'est-à-dire que les enfants dont l'organisme ne se défend pas correctement, ils seront sujets à des otites à répétition comme ça. Donc c'est un peu ça qui pourrait expliquer ces récidives fréquentes. Voilà.
Au titre sur les enfants, quelles sont les causes et remèdes? Docteur Lucas Manga, médecin pédiatre à la clinique Ngalima, et notre invité. Vous avez des questions, des préoccupations, composez le 081 890 63 94. Bien, nous poursuivons. Israël Zezoulé nous a écrit depuis la page Facebook du magazine En Tapis Service. Il est à Boutembo. Il dit ceci. Est-ce que cette maladie n'est pas héréditaire et quels sont les moyens de prévention, docteur Luc?
Ah oui, bon, héréditaire, non. Mais il est en fait qu'il y a des familles où des maladies de la chair, or elles sont assez fréquentes, des enfants qui font très souvent des angines, qui font des pharyngites, qui font des infections de cette chair. Ce qui fait que, bon, ils ont la possibilité de faire aussi beaucoup des otites. Le caractère héréditaire n'est pas mis en exergue, mais il y a cette possibilité que ces enfants issus des familles où tout le monde a fait des angines ou des trucs comme ça, puissent beaucoup plus se développer ces pathologies-là.
Et Moïse Tsumbela nous l'a écrit, il n'a pas dit où il se trouve, il dit ceci, en cas d'otite, on parle de surhumain, en quoi cela est nécessaire et quelle est l'étiologie de cette inflammation?
Bon, le surhumain, c'est une substance que l'on trouve dans le conduit auditif, qui est en fait se produit des déchets qui s'accumulent dans les oreilles. Et parfois, ils peuvent constituer un bouchon et ça diminue l'acuité auditive. Donc, l'enfant n'écoute plus bien parce que ce bouchon de cérumen est là. Voilà. Donc, au finish, il faudra une consultation pour essayer d'enlever ce bouchon-là, de nettoyer les oreilles et les choses rentrent dans l'ordre.
Bien. Et il dit quelle est l'étiologie de cette information?
Bon, le cérumen en soi n'est pas une inflammation. C'est comme je viens de dire, c'est une substance un peu graisseuse que l'on trouve dans le conduit auditif, qui est en fait le produit des saletés, si vous voulez, l'accumulation de saletés dans le conduit auditif.
Et ça peut être à la base du développement.
Peut être à la base également des douleurs. Parce que le bouchon, quand il est important, il va entraîner des douleurs comme s'il y avait otite. Mais on ne peut pas parler déjà d'otite à ce moment-là. Les douleurs sont dues à ce bouchon-là. Voilà. C'est un peu ça la différence. Le cérumen, c'est pas déjà l'infection. Le cérumen, c'est la substance.
Alors,
la substance peut entraîner des douleurs comme si c'était une otite, comme si c'était une inflammation.
Alors, quel est le soin, par exemple, que les mamans doivent apporter aux oreilles des enfants? Est-ce qu'il faut nettoyer une fois la semaine ou chaque jour ou deux fois le mois?
Bon, il faut nettoyer le plus fréquemment possible les oreilles des enfants. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il vaut mieux utiliser de l'ouate propre dont on fait une mèche qu'on va enrouler et faire un mouvement rotatoire dans le conduit auditif le plus fréquemment possible. 3-4 fois par semaine, c'est bon. Ça permet une hygiène correcte des oreilles, donc c'est ce que vous nous devez en conseiller.
Bien, un auditeur en ligne, il s'agit de Junior Kosingo, il nous appelle de Boutembo, au Nord Kivu. Vous voulez également participer, composez le 081-890-6394.
Réponse à vos réactions, questions et suggestions avec l'invité de Tapis Service.
Junior Kosingo, bonjour. Junior Kosingo, bonjour. Oui, on vous écoute, Junior, vous êtes à Boutembo, quelle est votre question?
Il n'y a pas de remède, là, de médicaments à donner au bébé, ou juste après l'accouchement.
Pardon, pouvez-vous reprendre la question, Junior?
Je demande s'il n'y a pas de médicaments de facteur pour donner au bébé pour que cette maladie ne soit pas
attaquée. Merci, Junior. Docteur Luc, ça m'a.
Ah, c'est juste cette question, la communication n'est pas bonne.
Oui, il dit,
vous voulez bien me la répéter?
Oui, il dit ceci, est-ce qu'il y a un vaccin qu'on peut donner au bébé juste après son accouchement pour prévenir, pour éviter cette maladie, pour éviter les otites?
Bon, dans les vaccins PEV qui sont prévus dès la naissance, il y a des vaccins destinés à la plupart des germes que l'on retrouve dans les otites. Nous avons parlé de pneumocoque, nous avons parlé de tétrocoque, nous avons parlé de l'hémophilus. Les vaccins qui sont donnés pendant les 9 premiers mois là, dans ce vaccin, il contient les vaccins qui sont dirigés contre les germes. Donc le problème est déjà résolu. Mais ça n'empêche pas que les enfants, même vaccinés, puissent développer des otites. Il y a plusieurs raisons à cela. Comme je venais de l'évoquer, il y a les questions immunitaires, il y a les infections de l'accès oral et tout ça. Donc, on ne sait pas exclu, mais ça diminue quand même la fréquence hein, avec les vaccins qui sont donnés là.
Ouais. Voilà, Jean des Dieux Mambourigo, depuis Arou, dit ici, quelles sont les complications de l'otite mal soignée?
Ah oui, l'otite mal soignée a beaucoup de complications. La première complication, c'est une mastoïdite, hein, c'est-à-dire que lorsqu'il est juste sous-jacente derrière l'oreille, peut être affecté. Lorsque une otite bactérienne est en place et qu'elle n'a pas été soignée correctement, ça peut se compliquer en mastoïdite. Là, c'est une infection beaucoup plus grave, parce qu'elle affecte l'os, et ça peut être à l'origine de beaucoup de douleurs, beaucoup de fièvre avec une altération de l'état général qui va nécessiter une hospitalisation et avec des antibiotiques au moins 8 à 10 jours. Donc ça, c'est la première complication. Les autres complications, ça peut être les otites persistantes. Malgré les soins qu'on a donnés, généralement, c'est quand la physiothérapie n'est pas adaptée. L'enfant va développer une otite qui persiste, sur le site. Les autres complications, c'est notamment les complications loco-régionales. Nous pouvons avoir des aspects au niveau du cerveau à partir de l'otite. Nous pouvons avoir même une méningite, ce qui est une des complications graves, hein, une méningite, peut éclore à partir de l'otite, une labyrinthite. Donc, le labyrinthe étant une partie de la structure de l'oreille interne. Donc tout ça, ce sont des complications qui peuvent se manifester. Et le point d'intersection de toutes ces complications, généralement, c'est la surdité. L'enfant peut développer une surdité à cause de cette étude-là.
Alors, l'enfant peut développer une surdité à cause de cela. Si l'otite est mal soignée, alors comment est-ce qu'on peut prévenir cette maladie, docteur?
Bon, la prévention de la maladie, c'est l'hygiène d'abord. L'hygiène et le contrôle régulier chez le pédiatre. C'est pour ça que les mamans doivent prendre l'habitude de consulter le pédiatre chaque mois pratiquement pour leurs enfants. Ça permet de détecter certaines petites infections qui ont affecté par exemple la gorge, les soigner rapidement avant qu'on atteigne les oreilles. L'autre chose à faire, c'est les soins locaux, comme je viens de dire tout à l'heure, le nettoyage régulier des oreilles des enfants avec de l'huile, monter sur une mèche. Donc ça prévient. Et puis il y a les vaccins qui sont donnés, qui préviennent, parce que c'est dirigé contre la plupart des germes qu'on trouve là-bas.
Mais docteur, sur le marché, par exemple, le nettoyage des oreilles de bébé, on retrouve que les tiges coton, c'est ça qu'on retrouve un peu partout dans les pharmacies, dans les boutiques.
Non, c'est ça. L'utilisation devrait être faite par une personne avertie. Nous disons ça parce que nous avons observé pas mal d'accidents à un usage abusif de ces tiges coton, surtout que les tout petits. Je venais de parler tout à l'heure des erreurs d'estimation de la longueur, qui peut aller, une maman peut enfoncer les tiges coton jusqu'à les perforer le tympan, ce qui est dramatique. Parce que là, c'est encore des complications plus graves. Et c'est pour ça que, pour un usage communautaire, il est conseillé, d'utiliser, des mèches qui sont moins traumatiques, parce que la mèche ne va pas traumatiser. Les tiges coton peuvent être utilisées chez les grands enfants ou chez les adultes, parce que ceux-là au moins, ils peuvent vous dire, écoutez, je sens telle chose, et ça peut vous permettre de limiter les dégâts.
Voilà. Il y a certains moments après le bain du bébé, il y a un peu d'eau qui entre dans les oreilles, elle souffle un peu dans les oreilles du bébé. Est-ce que ces genres de pratiques sont dangereuses?
Bon, c'est des choses qui sont habituellement faites, mais qui ne sont pas comptées, bien sûr. Parce que la bouche de la maman, elle est pleine de microbes. Hein. Nos bouches ici sont pleines de microbes. Quand vous soufflez, vous ne savez pas combien de germes on vous a injecté dans l'oreille de l'enfant. Donc ça peut être à la base de certaines... Enfin, d'une otite. Parce que l'otite, comme on n'a peut-être pas évoqué, ça peut avoir comme origine l'extérieur. À partir de l'extérieur, on peut injecter des germes qui vont affecter d'abord les parties externes et puis affecter probablement les parties internes. Ça peut être par voie sanguine, donc à partir d'infections au niveau du sang. Ça va atteindre l'oreille parce que, vous savez, les tissus de l'oreille sont vascularisés. À partir de ce moment-là, ils peuvent également développer l'otite. Nous avons parlé de l'origine de la sphère orale. Toutes les infections qui affectent le carrefour aérodigestif peuvent se muer en otite. Donc, ce sont là les trois causes principales. Donc, s'il faut éviter les causes par l'introduction des microbes à partir de l'extérieur, il faut éviter également de souffler. Ce n'est pas une bonne pratique, parce que quand vous soufflez, il y a des gouttelettes de salive qui sont injectées dedans. Et ces salives contiennent des microbes. Ils vont entrer dans l'oreille d'un enfant dont l'immunité n'est pas encore suffisamment développée. Donc ça peut être à l'origine des otites. Voilà.
Christian,
la façon de faire, c'est de, si vous pensez que l'eau est entrée dans l'oreille de l'enfant, c'est de le mettre en position d'étive. Donc, l'oreille que vous pensez être affectée par de l'eau, vous l'inclinez jusqu'à ce que ça se coule. Et puis, avec une mèche bien propre, vous pouvez racler les dents et essuyer correctement, plutôt que de souffler.
Votre radio vous propose chaque après-midi 2 heures de découverte. De 13h à 15h, partez à la découverte des récoltes et des femmes du Congo. Suivez nos reportages, vie quotidienne, paroles d'enfants et femmes d'aujourd'hui. Laissez-vous guider par les balades en zigzag. Un geste de culture et beaucoup de musique. 13h, 15h, découverte, les coquettes de l'après-midi sur Radio Okapi.
Au titre chez les enfants, cause et remède, docteur Luc Mangam, médecin pédiatre à la clinique d'Animaï et l'invité du jour. Christian Gabou nous appelle de Pandroma dans la province orientale et François Tshitenge de Kananga dans la province du Kasaï occidental. Christian Gabou, bonjour. Dommage, je n'ai plus en ligne. François Tshitenge de Kananga, bonjour.
Bonjour.
On vous écoute. Je voulais
savoir, lorsqu'il s'agit des écoulements de pieds au sein de l'oreille de l'enfant, il s'agit de l'otite.
Vous dites, lorsqu'il y a écoulement de quoi?
Les pieds.
Les pieds. Bien, restez en ligne, docteur Duc.
Cet écoulement peut avoir pour origine l'otite, disons, l'oreille externe, c'est-à-dire le conductif. On parlait du conductif peut être à l'origine d'une absédation avec épuration, c'est-à-dire qu'il y a du puits qui coule, mais très souvent, c'est l'oreille interne qui est affectée, et à travers la membrane du tympan, qui, à un moment donné, à cause de la pression à l'intérieur, peut se rompre, ça fait sortir du puits. C'est une otite moyenne suppurée, comme nous disons. Le puits, là, peut sortir de l'intérieur, mais il peut également être issu des parois externes. Donc, pour répondre à la question, c'est un signe d'otite.
Oui,
on pourrait déterminer si c'est une otite externe, ou bien si c'est une otite interne, une otite moyenne, ainsi de suite.
Oui, François, peut-être que vous avez déjà eu des cas comme ça à Kananga.
Oui, oui.
Et comment ça s'est terminé?
Justement.
Oui, dites-nous, l'enfant a été traité, il est maintenant à mon compte.
On ne sait pas comment intervenir.
Ah. Ben, écoutez,
on peut intervenir au point des écoulements des pieds.
Oui.
Le médecin, on lui dit, prenez par exemple le tétra, des antibiotiques excessifs.
Oui, et malgré la prise des antibiotiques, l'écoulement des pieds continue.
Il y a parfois cessation, ou soit ça vient à compte-goutte.
Oui,
alors les gens doivent savoir qu'une otite, c'est une infection, le traitement, c'est par les antibiotiques. Et c'est pas n'importe quel antibiotique. Il y a des antibiotiques appropriés pour traiter les otites. Les antibiotiques ont une action plus efficace sur les germes que l'on rencontre habituellement sur le lieu de l'otite. Les antibiotiques, ce sont des pénicillines. Très souvent, nous utilisons l'augmentin, qui est connu dans le marché, donc c'est une association de pénicilline et d'acide clavulanique. C'est en fait la molécule qui est la plus utilisée, qui a montré ses preuves, Il y a d'autres otites qui sont résistants même à l'augmentin là-bas.
Alors qu'est-ce que François doit faire hein,
dû à des germes atypiques et très souvent, on peut recourir également à d'autres antibiotiques et comme l'érythromycine, comme d'autres érythromycines par exemple, donc ça peut aider lorsque les germes sont, ne répondent pas à l'antibiotique. Mais le mieux, c'est lorsque vous avez par exemple des situations de puits comme ça, vous les prélevez, vous envoyez au laboratoire pour qu'on fasse la culture et l'antibiogramme. Ça va vous donner avec précision quels sont les microbes qui sont là et auxquels antibiotiques ils sont sensibles. Là, vous traitez de façon correcte pendant 10 jours et vous êtes plus ou moins sûr que la chose est bien faite. Quoi.
Donc, vous demandez à François de retourner voir peut-être un autre pédiatre.
En tout cas, tout pédiatre sait que les otites, il faut les soigner avec les antibiotiques. Surtout les antibiotiques comme l'augmentin. Voilà.
Adekaba nous appelle des Kamina, dans la province du Katanga. Bonjour. Adekaba, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Vous êtes à Kamina, qu'est-ce que vous avez à nous dire?
Oui, ma préoccupation est celle-ci. J'ai eu pour cette maladie.
Oui.
Cette maladie aussi, c'est là, ça concerne toujours l'enfant de la première enfance, ou soit même la pré-adolescente, ou soit l'adolescent pour vous demander tout ce qu'il y a en face.
Docteur Luc.
Le titre peut concerner tout le monde. Hein. Nous avons dit au début de l'émission que c'est surtout les enfants. Donc, pendant les 5 premiers mois, c'est plus fréquent. Entre 5 mois et 3 ans, c'est toujours fréquent, mais avec des germes plus ou moins différents. Au-delà de 3 ans, l'otite est toujours là. Même l'adulte peut attraper l'otite. Donc, c'est pratiquement tout âge. Mais comme je l'ai dit au début de l'émission, plus jeune on est, plus de possibilités on a pour faire l'otite. Voilà.
Docteur Luc, certains affirment que les otites se développent beaucoup plus pendant la saison sèche.
Bon, il est possible de sauver la saison sèche avec le véhicule de poussière et toutes les maladies de la saison qui l'accompagnent. Les enfants ont souvent un rhume, ils ont souvent la toux, et comme je l'ai dit, rhume, toux, vous observez la gorge, c'est déjà congestif. Sur le boulevard des otites, oui, c'est vrai, pendant la saison sèche, les enfants font beaucoup plus d'otites à cause, justement, de l'irritation, des voies respiratoires, des voies, et notamment du carrefour aérodigestif, qui est le boulevard, comme nous l'avons dit, des otites.
Donc les parents doivent être beaucoup plus attentionnés pendant ce
temps. Bon, bien sûr, les parents doivent être attentionnés. Mm-hmm. Garder les enfants en dehors des poussières, malheureusement, c'est difficile avec les travaux qui sont en cours actuellement, qui sont utiles, mais bon, voilà, c'est difficile d'éviter. Et puis il y a le vent qui souffle, qui véhicule ces poussières-là.
Mm-hmm.
C'est presque inévitable. Mais les parents devraient faire de leur mieux pour essayer de limiter, si vous voulez, ce contact avec de l'air pollué.
Docteur Luc Kamanga, médecin pédiatre à la clinique Galima, je vous remercie.
Merci, M. Kassama. Merci pour votre confiance.